Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ?
Bonjour à tous. Experte en ingénierie pédagogique et en formation, Laetitia Fly-Sainte-Marie a créé Let's Mind en 2013, une agence qui accompagne tous les acteurs de la formation dans leurs projets pédagogiques. Formée à l'écriture scénaristique, Laetitia développe des formations sur mesure en se basant à la fois sur son expertise en andragogie et sur les techniques de storytelling. Elle accompagne depuis plus de 10 ans de nombreux organismes de formation dans le conseil stratégique et opérationnel, ainsi que dans la conception et la production sur mesure de leur formation. Dans cet épisode, Laetitia va partager avec nous ses secrets pour créer une formation digitale efficace. Bonne écoute à tous! Bonjour Laetitia et bienvenue!
Bonjour Anne-Marie, merci de m'accueillir.
Eh bien moi, je suis également ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Et donc ensemble, on va s'intéresser aux différentes étapes pour créer une formation digitale.
Eh bien, j'en suis ravie et je suis ravie d'être présente dans ton podcast également.
Et donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nous dire qui tu es, ce que tu fais en quelques mots ?
Alors, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Laetitia Fly-Sainte-Marie. Je suis ingénieure formation ingénieure pédagogique. J'ai fondé et créé une entreprise, une agence qui s'appelle Let's Mind il y a 10 ans, une dizaine d'années, qui a pour objectif d'accompagner les organismes de formation et toute structure formation, mais aussi de créer toute formation sur mesure, qu'elle soit digitale, présentielle, visio, quelle que soit la modalité. Voilà ce que l'on fait chez Let's Mind. Et puis voilà mon cursus ingénieur formation, ingénieur pédago.
Très bien. Et donc pourquoi créer une formation digitale ? Quels en sont les avantages ?
Alors, il y en a de nombreux, en fait. Ça, c'est extrêmement intéressant comme question parce qu'on nous sollicite beaucoup en disant « Ouais, très bien, mais pourquoi faire finalement ?» Déjà, on peut créer toute ou une partie de la formation en digital. On va dire formation digitale, c'est formation en e-learning. Donc, on est en distanciel asynchrone. On est présent en tant que formateur, on n'est pas du tout présent. Et les stagiaires, quels qu'ils soient, les apprenants, peuvent suivre les contenus. Il y a plusieurs possibilités dans ces formations digitales. Déjà, parce que quand on est en présentiel, en face-à-face, on livre énormément d'informations. Donc, on le sait très bien que la capacité de notre cerveau et donc de notre mémorisation n'est pas aussi grande que l'ensemble des informations qu'on peut nous livrer. Donc, il est bon de voir et de revoir, en fait, ce qui a été fait et en plus d'une façon différente. Suivant un principe de redondance pédagogique, on peut les voir d'une autre façon, les adresser quand on veut. Donc, ça, c'est quand même déjà assez formidable. Donc, ça peut être tout à fait complémentaire. Ça ne remplace pas forcément une formation en présentiel. Ensuite, on peut adapter aussi sa méthode pédagogique, c'est-à-dire que une formation digitale peut être aussi, par exemple, suivre un principe mais que tu connais et que je suis sûre que les auditeurs et auditrices connaissent aussi, c'est la classe inversée. C'est-à-dire qu'on apprend chez soi, hein, c'est le principe, et on fait ses entre guillemets devoirs, c'est-à-dire la mise en pratique avec le formateur, parce que le formateur, il est quand même là pour ça, il n'est pas là pour délivrer du savoir normalement. Et donc, suivant ce principe, on peut créer des contenus digitaux, de la formation digitale adressée en amont. Cette formation digitale, on en reparlera tout à l'heure, elle peut avoir tout un tas de possibilités aussi. Voilà, ça peut être ça, puis ça peut être des éléments de synthèse, ça peut être aussi des évaluations. Ah, on oublie, ça peut être des activités, des évaluations qui vont permettre de se souvenir d'un certain nombre de choses. Donc, en fait, il y a de multiples façons d'adresser une formation digitale et de vouloir en créer.
Eh bien, justement, quels sont les différents formats qui existent et les différentes modalités ? Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama ?
Alors, les formats, tout existe, on peut tout faire. Ce qui est génial avec notre métier en pédagogie, c'est qu'on peut tout faire. Alors, on peut digitaliser des activités, des évaluations, des contenus, hein, bien entendu. Voilà, le podcast, hein, c'en est un, finalement.
Oui, là, écoutez, tout à fait.
C'est de l'apport en digital, en distanciel asynchrone. Voilà, c'est une modalité à part entière, hein, le distanciel asynchrone. C'est une modalité complète et de ce fait, ben, effectivement, on peut faire de la multimodalité, c'est-à-dire que on peut la mettre avec d'autres modalités, avec de la visio, avec donc du distanciel synchrone, avec du présentiel, et aussi dans le cadre aussi de ce qu'on appelle le réel, l'entreprise, comme par exemple les actions de formation en situation de travail. Donc des formats, il y en a plein, des possibilités, il y en a plein. Ça peut être de la vidéo et c'est pas forcément où, et du podcast, et des contenus animés, et des illustrations, et des activités. Voilà, on peut tout faire, et écrire des histoires, et les narrer, etc., etc., bien entendu.
Oui, l'idée, c'est vraiment de mixer les différentes modalités, de mixer les différents formats, justement aussi pour ne pas créer une lassitude auprès de l'apprenant et pour qu'il soit motivé jusqu'au bout du parcours de formation.
Et qu'ils puissent, bah, l'objectif, retenir et mettre en œuvre, donc aller rechercher l'information, quoi. C'est un peu, c'est aussi ça.
Oui. Et justement, donc, lorsqu'on se lance dans la création d'une formation digitale, est-ce que tu as des conseils? Comment faire justement pour sélectionner le contenu de cette future formation? Parce que tu l'as dit très bien tout à l'heure, une formation digitale, ce n'est pas calquer une formation présentielle. Donc, comment est-ce qu'on va faire le tri? Comment est-ce que toi, tu fais?
C'est une excellente question et c'est une question qu'on nous pose souvent. C'est par quoi on commence? Est-ce que vous avez des conseils? Et puis en fait derrière comment je dois faire? Parce que il faut pas oublier que les formateurs ou les organismes de formation tous en fait veulent le faire aussi, mais ne savent pas par quoi commencer. Et généralement et malheureusement, bah, on commence par l'outil. Hein, donc oui. Même en présentiel, hein, s'il faut le dire, hein, c'est le PowerPoint, mais là ça va être l'outil parce qu'on les outils c'est sexy, c'est sympa, on voit tout de suite le résultat, donc on a envie, mais c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Il y a une méthodologie qui est exactement la même que la création et la conception donc de formation, quelle que soit la modalité, en présentiel, etc. Mais on a un peu oublié avec le temps, qui a une méthodo à appliquer en fait, et en e-learning, bien vu que le formateur n'est plus là pour ajuster en temps réel, parce qu'on le voit hein, quand même hein, face à ses apprenants, on voit un petit signe en visio ou en présentiel, donc on va ajuster. Mais là, non, on est face à son écran, donc rien de plus simple pour un apprenant de fermer son outil et de passer à autre chose. Donc, il y a une méthodo, effectivement, qui est toujours la même, qui est celle que j'ai appris il y a quelques années pour concevoir une formation, qui est celle que tout le monde connaît. Le premier conseil, c'est de savoir à qui on va s'adresser, en fait. Mmh. C'est ça.
Oui, de connaître sa cible.
Sa cible, mais alors, et puis c'est pas toi que je vais en parler, hein, mais c'est ça, tu le connais très bien, mais c'est ça, c'est délimiter son persona, c'est trouver son persona. Et il faut aussi, et ça c'est extrêmement difficile, on le voit dans les accompagnements, avoir une espèce de frustration et passer au-delà des biais qu'on peut avoir, on ne s'adressera pas à tout le monde. Et non, c'est pas possible, on écrit pour un persona. On crée pour un persona. Alors qu'en formation en présentiel, bah on le sait, on nous donne un public hyper varié en fait, très hétérogène. Là, c'est pas possible. Je vous prends un petit exemple, très rapidement, hein, parce que si je fais des techniques de recherche d'emploi, sur élaborer un CV par exemple, hein, élaborer un CV, ça va être pour tout le monde la même chose. Et que j'ai un jeune de 16 ans qui va chercher un apprentissage, j'ai un homme de 40 ans, en reconversion professionnelle. Et j'ai une femme senior de 60 ans, par exemple. Hein, parce qu'on travaille encore à 60 ans.
Ah bah oui.
Maintenant,
oui.
Et puis, beaucoup le souhaitent aussi, il ne faut pas l'oublier. Beaucoup ont envie hein, pour regarder le lien et puis aiment travailler aussi. Est-ce que je vais faire la même chose? Est-ce que je vais créer le même e-learning? Est-ce que je vais m'adresser, j'aurai la même tonalité, le même vocabulaire? Et même, finalement, même si un CV, c'est un CV, à l'intérieur, est-ce que je vais faire les mêmes choses? Pas du tout. Ben si on veut que ça fonctionne, il y a de l'expérience utilisateur. Et dans l'expérience utilisateur, il y a le mot utilisateur. Donc, c'est ça. C'est vraiment réfléchir avant tout dans notre métier à la conception. Alors, c'est un peu embêtant parce que c'est très conceptuel. Il faut savoir se projeter. Mais c'est ça. Et puis ensuite, c'est pas parce qu'on fait du digital qu'on dessine pas, qu'on n'a pas des planches de cahier ou autre, qu'on va faire un storyboard même à la main en se disant « je veux ça » et ensuite « je veux ça » et ensuite « je veux ça » et ensuite « je veux ça ». Après, les outils, il y en a des tonnes, mais on va en reparler derrière. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Donc, la première des choses, c'est que notre métier, c'est de permettre quand même à des stagiaires identifiés d'acquérir des compétences identifiées et de trouver la meilleure solution pédagogique. Et des fois, c'est du e-learning, mais c'est souvent pas que. Hein, c'est e-learning plus présentiel ou visio plus apprentissage plus. Mais c'est ça. Et si on n'a pas nos stagiaires identifiés, et si on n'a pas nos compétences identifiées, vraiment, suivant une taxonomie, etc., savoir les rédiger, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est vraiment mon premier conseil. Sachez de où vous partez et où vous souhaitez arriver. C'est vraiment ça.
Et justement, comment tu vas la structurer ta formation pour aller de ce point A à ce point B ? Quelles vont être les différentes étapes pour toi qui sont incontournables dans une formation digitale ?
Alors justement, c'est d'écrire ses compétences, hein, de formaliser ses compétences, ça c'est sûr. Et ensuite, ces compétences, il faut réfléchir à comment je vais les adresser pour mon public. Eux, ils vont vouloir quoi ? Donc là, on passe dans la partie conception pédagogique. Et là, il y a beaucoup de techniques qui peuvent effectivement être utilisées, dont une. Et tu le sais, une dont je raffole spécifiquement, qui est le storytelling. Oui. L'art de raconter des histoires dans les formations. Alors, c'est pas utilisé chez tout le monde, c'est pas obligatoire le storytelling. Toutefois, pour un certain public justement qu'on a identifié, le fait de raconter une histoire et de créer de l'émotion, ça va aider facilement à amener ces apports théoriques qui, des fois, peuvent être complexes déjà ou pas faciles à amener. Et puis ensuite, on est sur un écran. Et en France, on n'a pas encore l'habitude de s'auto-former. C'est de plus en plus, hein, il faut le dire. Et puis, ça dépend de ce qu'on appelle formation aussi, parce que tous, quel que soit l'âge, on a tous suivi des tutoriels, hein, même des recettes de cuisine, des choses à apprendre, comment je vais faire ci, je vais faire ça, etc. C'est certain. Et on est maintenant beaucoup sur l'écran quand même, sur son téléphone, etc. Donc, il faut donner envie. On n'a plus des contenus qui sont faits à moitié, en fait. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, OK, je vais raconter une histoire, mais je vais raconter quelle histoire ? Dans quelle place je vais mettre mon persona ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Et il va lui arriver des choses. Et ces choses, bah, peut-être que, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, c'est un apprenti de 16 ans qui veut devenir boulanger. Pourquoi pas ? Hein? Et puis, il sait pas comment faire, en fait, pour aller démarcher une entreprise. Il est très embêté parce qu'on lui, il a son CFA, il va rentrer, mais il a des conseils de tous les côtés. Tu vois, il faut prendre ce qu'on vit dans la vie. Mmh. Donc, c'est ça, c'est se projeter, c'est cette capacité à se projeter vers l'autre et de se dire, OK, bah, moi, je serai cet apprenti, de quoi j'aurais besoin, en fait? Bah, peut-être que mes parents, ils me disent, faut faire ci. À l'école, on me dit, faut faire ça. Je regarde sur Internet, on me dit, faut faire ça. Et puis, en fait, j'ai absolument pas quoi faire, quoi. Mmh. Donc, c'est ça qui peut nous aider, véritablement.
Oui, donc là, tu vas suivre le chemin.
Exactement, tu vas suivre le chemin. C'est exactement ça. Donc, tu vas suivre un chemin. Et puis, donc ça fait partie des étapes. Et ensuite, bah, tu vas choisir des outils. Aussi,
oui, ben justement,
une fois que tu as écrit tout ça.
Oui, voilà. On va en parler justement. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur le storytelling, tu as justement fait un podcast sur le storytelling.
Oui, alors un podcast, effectivement, chez Let's Mind, un podcast sur le storytelling de 15 minutes, très très condensé, hein, pour avoir l'essentiel. Et puis aussi, grande nouvelle, il y a un ouvrage qui va sortir aussi sous peu. Sur le storytelling au mois de février, j'ai pas encore la date, mais j'entends dire que c'est autour de la Saint-Valentin, sur effectivement toutes les étapes du storytelling. Donc, mais c'est toujours pareil, c'est le storytelling à portée pédagogique.
Oui.
D'accord, parce que écrire des histoires, on le fait dans le marketing, on le fait dans le cinéma, bien sûr, on le fait partout. On le fait dans l'entrepreneuriat quand on pitch, mais là, c'est vraiment comment on écrit des histoires à portée pédagogique. Et là, il y aura toutes les étapes, tout un fil conducteur justement qui va pouvoir aider.
Bon, bah, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, les liens de ton podcast et le lien de ton futur livre.
Merci beaucoup.
Voilà. Donc, une fois que l'on a pensé tout ça, quel est le temps nécessaire pour arriver à un produit finalisé ? Est-ce que toi, tu as un petit peu des métriques à nous donner pour mieux se rendre compte ?
Oui, alors, et je vais le dire de façon très, très honnête et avec beaucoup d'authenticité, parce qu'on se cache souvent derrière son petit doigt en se disant « bah je vais le faire, ça va prendre tant de temps ». Il y a deux étapes différentes. Il y a la conception, d'accord ? Ce que j'ai dit, c'est-à-dire tout ce qu'on va imaginer, tout ce qu'on va écrire. On va écrire des voix off peut-être, ou des sous-titres. On va écrire des choses qu'on veut voir à l'écran. Et ce qu'on va dire aussi pour augmenter ce qui se passe, hein, un peu comme on forme sous un autre média. Donc cette partie jusqu'à la conception pédagogique, parce qu'on peut être très bon en conception et comme moi très très mauvaise en production, c'est-à-dire donner vie à tout ça. Moi je vais pas aller tourner des vidéos, créer des illustrations, faire du graphisme, heureusement pour les stagiaires. Donc cette partie jusqu'à la conception, déjà il faut la mesurer. Il faut la mesurer parce que on se dit mais moi je m'en sors pas, moi ça prend beaucoup de temps et puis on m'a donné que tant de temps, etc. Donc on a bien sûr des métriques qui viennent de plusieurs choses. Déjà ben, parce que quand on vend la presta, il faut savoir combien on la vend, combien de temps. Et puis aussi parce qu'on accompagne et donc il faut donner des vrais délais. Alors il y a plusieurs façons de faire. La première, on peut partir de ce qui existe déjà ou de ce que je projette. Si cette formation était en présentiel, elle ferait combien de temps? Ou elle est en présentiel, elle fait combien de temps? En synchrone, d'accord? Et là, donc on va dire que c'est une formation qui dure une demi-journée, 4 heures. Ok, on va prendre un exemple simple, 4 heures. Si je devais la faire, et quand on l'a pas, on se dit, si je devais la faire en présentiel, elle durerait combien de temps? 4 heures. Pour la concevoir, et même en fait, si on réfléchit bien, si on démarre de 0-0-0 et que c'est du présentiel, on mettrait le même temps, je tiens à le dire, hein, pratiquement, sur la conception. De 0, il faut un coefficient multiplicateur x 10, d'accord?
Ah oui.
Pour moi, créer 4 heures en e-learning, de toutes les étapes, de la conception pédagogique, imaginer les écrans, les voix, faire des storyboards, il faut 40 heures.
Oui.
Mais quand j'écris une formation en présentiel pour quelqu'un d'autre qui va l'animer, d'accord, ça nous arrive aussi. Donc, avec un guide d'animation, ce qu'il doit dire, qu'est-ce qui se passe, ses exercices, il faut 40 heures aussi.
Mmh. D'accord.
D'accord. Parce que là, on n'est pas encore dans la production, on est dans la conception. Donc, c'est un fois 10. Et pour la concevoir, pour la produire, c'est-à-dire pour lui donner vie avec des outils, hein, sur un degré de complexité simple, intégrant du graphisme, où on peut en reparler, de l'intelligence artificielle, etc., il faut aussi 40 heures.
Donc, le même temps. Conception,
même
production.
Temps, ouais. Sur quelque chose de plutôt simple. Je ne parle pas de logiciel auteur complexe ou vraiment je vais intégrer de la vidéo, vraiment je vais faire des choses. Sur quelque chose de plutôt simple, il faut 40 heures. Mais en fait, c'est ça. Regarde, ne serait-ce qu'un épisode de podcast, il faut le préparer.
Oui.
Il faut réfléchir, il faut trouver. C'est ça. Il y a vraiment du temps. Si on veut faire de la qualité, ça prend du temps.
Oui, exactement.
On ne peut pas improviser. Et dans nos métiers, c'est pas qu'on a tendance à l'improvisation en tant que formateur, c'est qu'on connaît notre domaine d'expertise et qu'on sait qu'on va faire face et qu'on a préparé peut-être X activités, tu vois?
Oui.
Mais la première fois qu'on a animé, la première fois qu'on a fait du présentiel, rappelez-vous, la première fois qu'on a animé, on a bien mis ce temps-là quand même pour préparer notre PowerPoint, pour faire ci, pour faire ça. Ben là, c'est la même chose.
Oui, oui, comme tu dis,
vraiment.
De toute façon, la qualité prend du temps, donc moi, j'aurais dit peut-être plus encore pour la production, tu vois.
Je parle sur des outils simples.
Oui, oui, voilà.
Tu vois, qui vont déjà préparer un certain nombre de choses. Effectivement, quand on crée nous-mêmes nos propres illustrations, quand on va faire de la vidéo, tu vois, ou que on doit retraiter des voix off pas linéaires, c'est-à-dire avec des dialogues, avec du sound design, oui, bien sûr, on va mettre plus de temps. Ça, c'est certain. Oui, oui, tout à fait.
Et quels sont les outils que tu conseillerais pour débuter, pour que le contenu soit interactif quand même? Voilà, si nos auditeurs sont débutants, qu'ils souhaitent construire, concevoir une formation digitale, vers quels outils tu pourrais les orienter?
Alors, ça va dépendre de ce qu'ils veulent faire déjà, parce qu'il peut y avoir des outils de création de contenu, il peut y avoir des outils d'animation, et il peut y avoir des outils de diffusion. Comme un LMS, hein, le Learning Management System, c'est-à-dire des environnements pédagogiques multimédia. Déjà, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'on ne crée rien sur un LMS. Ça, c'est important. On crée ailleurs pour pas être dépendant, ok? Et c'est pour ça qu'on sépare la conception de la production, toujours. Un outil très simple, parce qu'il faut aussi avoir une expérience utilisateur facilitée, c'est ça, si tu veux. Le truc, c'est qu'on voit que certains font de la conception de façon absolument géniale, et que derrière la production, elle fait flop. En fait, c'est comme un film. Hein, on a tous connu ça, où il y a un super scénario, et la réalisation, elle est mauvaise. Ou le montage, il est mauvais. Et là, on se dit, oh, zut. Et des fois, on voit l'inverse. On voit un super truc, et on se dit, oh, c'est un peu léger, parce que le scénario est un peu léger. Donc, c'est un juste milieu. Et pour ça, moi, un outil que je trouve avec un super rapport qualité-prix pour les formateurs, pour tous ceux qui ont envie de débuter, c'est Géniali. Géniali, c'est absolument génial.
Ah bah oui, génial. Oui, moi, c'est mon outil
bien
chouchou,
sûr.
Hein, Géniali.
Géniali, c'est génial. Alors, Géniali, c'est génial parce que déjà, il existe, il est en freemium, hein, donc on peut se tester. Toutefois, on est vite limité. Donc, l'abonnement annuel, c'est 90 euros, je crois, quelque chose comme ça.
Oui,
donc,
oui, c'est pas très cher.
C'est, voilà, sur le premier prix. Même master, c'est pas super cher. Et on peut faire beaucoup de choses parce qu'il y a déjà beaucoup de templates qui existent. Mmh. Attention, toutefois, harmoniser sa ligne éditoriale, encore une fois, sur le persona. Donc, sur Geniali, soit on utilise des templates qui existent, soit donc des maquettes, tout simplement. Bon, on peut créer la sienne avec ses fonds et puis on va les chercher. Pour ceux qui utilisent Canva en marketing, c'est la même chose, la même chose. Mmh. Ces outils-là, ils se ressemblent complètement. On va aller chercher des fonds, on va aller chercher des personnages qu'on peut aller chercher sur des bandes aussi gratuites, du moment qu'on cite tout le monde, ou des images. Et on va donner du fond. Donc ça, c'est assez génial parce que Geniali permet maintenant d'intégrer des voix off assez facilement, même s'il n'y a pas de bande de montage, d'avoir des petits boutons plus, d'avoir tout un tas de choses qui vont permettre de l'interactivité et que vous n'ayez pas du tout un apprenant passif. C'est surtout ça. Donc, vous allez pouvoir mettre des petits plus, des petites choses comme ça, des images, et on va directement aller d'une slide à l'autre sous un format qui va être aussi facilité écran ou smartphone, finalement. Mmh. Donc, pour l'envoyer, vous n'avez pas forcément besoin d'un LMS, ça qui est génial. Oui, on peut envoyer juste une URL. Par contre, on n'a pas le retour. Est-ce que c'est un lien? Oui. Est-ce que la personne l'a vu, pas vu? Voilà. Donc, Geniali, c'est assez top. Et ensuite, il y en a d'autres sur les évaluations. Si on veut créer ces petits quiz des évaluations, il y a un outil que j'aime beaucoup, qui est créé par le ministère de l'Éducation nationale d'ailleurs, qui est la cuisinière.
Donc,
on pourra indiquer les liens. Donc, c'est comme un quiz-inière, entièrement gratuit. Alors, c'est vrai que ça a une interface, c'est marqué élève-enseignant, mais ne vous arrêtez pas là, il ne faut pas s'arrêter là. Mm-hmm. Il faut y aller et on peut créer tout type de quiz. Ça, c'est génial, vraiment. Mais même avec de l'audio et attendre des réponses audio.
Ah oui.
Donc, si on a des formateurs langue étrangère, FLE, etc., ça, c'est génial. Ou même, on demande à quelqu'un de pitcher, faire de la vidéo, pareil. Donc, il est entièrement gratuit. Donc, ça, franchement, je le conseille. C'est un outil qui est vraiment, vraiment très sympa. Vous avez les retours, vous avez tout ça. Geniali en première approche sur la création de contenu. Et puis, ce qu'on nous demande souvent, c'est des banques d'images. Faut aller sur Freepik, par exemple, Unsplash pour les photos. Voilà, ce qu'il faut bien penser, c'est les droits à la propriété. Donc, bien citer tout le monde. Et puis, forcément, il y a l'IA aussi, avec l'intelligence artificielle, en texte ou image, on peut créer aussi ses propres images. Faites simple. En fait, le cerveau peut se projeter facilement. Donc, une bonne photo avec une voix off et puis un sound design. Si je vous dis, Anne-Marie et Laetitia sont à la mer près de Toulon, on entend le bruit des vagues et il fait un temps magnifique. Elles ont décidé de passer leur permis bateau et vous voyez, on va vite se projeter parce que je vais vous mettre une image juste de bateau en fait. Et derrière, je vais peut-être mettre un petit son de bruit des mouettes, on va entendre les vagues, et ça y est, notre cerveau se projette. Donc, souvent, on voit des personnes qui s'arrêtent dans leur conception, dans leur production, parce que ce qu'elles ont imaginé, c'est trop difficile à mettre en œuvre. C'est de l'animation avec des personnes qui bougent, et il y en a un qui va parler à un tel. Non, il faut avoir une seule voix, un narrateur, ça suffit amplement, et puis faire des choses simples et qui fonctionnent. Donc, simplifier, en pédagogie, souvent, le mieux est l'ennemi du bien.
Oui,
c'est ce que je dis aux équipes. Et c'est vrai que des fois, des choses simples, ça marche super bien, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment.
Ah bah, complètement.
Les outils phares. Les outils phares dans les LMS, il y en a plein après que vous pouvez utiliser. Je vous conseille vraiment de créer ailleurs sur Geniali, vous l'intégrez. Et c'est très simple, c'est deux clics, c'est comme c'est mettre un lien YouTube, c'est la même chose à l'intérieur d'un LMS qui peut être un LMS de premier accès assez simple. Déjà, pour tous ceux qui ont les packs Microsoft 365, il y a des LMS inclus. Il y a aussi Parcouru, Apple oui. Learn. Voilà, sans créer un Moodle, sans aller dans un quelque chose. Et puis, pour d'autres qui veulent déjà avoir des formations à vendre derrière, il y a des LMS privés, comme 360 Learning, Rise Up. On peut payer au prix stagiaire. Donc, on l'inclut dans son prix. Voilà. C'est bien aussi. Donc, prenez des choses simples. Il y a plein d'outils d'animation aussi. On a entendu parler beaucoup. Et puis, moi, j'utilisais dans les premiers temps comme Potoon. Je ne sais pas si tu as utilisé Potoon.
Oui, j'aime beaucoup Potoon aussi.
Mais c'est très long à faire.
Oui, c'est très long.
Attention, voilà. Et des fois, et c'est ce que je vois, moi, je regarde des fois et je dis, mais c'est quoi l'intérêt pédagogique? Revenez. On n'est pas là pour faire l'animation. On n'est pas des pros ni du jeu vidéo, ni... C'est quoi l'intérêt pédagogique? Et des fois, quand je vois des personnes qui ont passé 15 heures pour faire quelque chose, qui est très chouette, attention, mais pour un intérêt pédagogique qui est très, très minime, ça vaut pas le coup. D'accord? Il faut se recentrer, toujours. Donc, il y a plein de petits outils pour faire des quiz dans les vidéos, pour mais les LMS les inclus aussi, hein, pour les quiz, etc. Parce que là, du coup, il nous faut la remontée de données des stagiaires, c'est quand même important. Voilà, donc ça, c'est les outils. Puis après, ceux qui veulent aller plus loin, je peux pas tout dire dans les outils parce qu'en fait, tout, on peut tout utiliser. Hein, la vidéo, là, le podcast, hein, y a des outils de création de podcast qui sont maintenant très, très simples d'accès, de vidéos faciles à monter, des choses aussi extrêmement étonnantes. Vous pouvez aussi animer un PowerPoint. Enfin, voilà, on peut faire vraiment plein de choses. Et puis, pour ceux qui sont au-dessus et qui veulent vraiment faire du pro, on a nos logiciels pro. Hein, alors, moi, mon préféré, c'est Storyline.
Bah oui, après, on va sur Storyline.
Voilà, on va sur Storyline. Alors, il y a toujours Captivate, mais bon, voilà, Storyline, c'est quand même... Mais c'est un logiciel qui est cher. Hein,
oui, qui est très cher à l'année. Il demande de la prise en main aussi, une longue prise en
main.
Voilà.
Et ben, c'est la même chose. On le voit dans le marketing et la com. Soit on utilise Canva, ça va être notre Geniali à nous, hein. Et si on veut faire un logo, ben, on va utiliser le pack Adobe. Et il faut être formé, hein. Sur Photoshop, Illustrator, InDesign, on n'y arrive pas comme ça. Ben, c'est pareil pour nous. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un intérêt, là aussi. Donc, c'est quand on va faire des scénarios aussi complexes et multiples avec du conditionnement. Ce que fait pas Geniali. Si et seulement si. Si le stagiaire fait ça ou clique là, alors il fait ça. Donc, dans la gamification, quand on va apporter du jeu, quand on va faire des serious games et des scénarios multiples, alors il fait ça, alors ça ouvre ça. OK, on va utiliser ça. Mais sinon, commençons avec des choses simples, ne veut pas dire simpliste. Hein. Simple, non, ça fonctionne.
Non, tout à fait. Avec des choses simples à notre niveau, avant ensuite d'itérer et d'aller sur des outils plus compliqués. Et donc, une fois que notre formation est créée, comment est-ce qu'on va penser sa stratégie de vente? Est-ce que tu as des conseils?
Alors ça, c'est une excellente,
bien entendu.
Ouais, c'est une excellente question et je vais donner un parti pris tout de suite. Arrêtez de vendre pas cher ce que vous faites. Surtout le e-learning, parce que nous, en France, on est câblé durée de formation. Hein, bah oui, on a toujours été payé sur l'animation. Ah bah t'es à combien la journée? J'en parlais avec une copine justement en formation. Qui me dit, ouais, mais j'interviens qu'une heure, mais même en présentiel, hein, j'interviens qu'une heure. Mais je dis, ouais, t'as une heure, mais t'as eu combien de réunions de préparation? Il y en a combien derrière? Elle me dit, ouais, il y a eu tout ça. On vend pas une heure, hein.
Non.
On vend l'expertise et on vend la compétence. OK? Donc. Et ça se vend. Ça se vend. OK? Donc, ça dépend. Si vous faites quelque chose, encore une fois, je vous ai dit, on n'est pas, nous, sur, vous pouvez l'être, hein, d'ailleurs, sur des plateformes, vous allez créer. Vous allez voir des choses pas chères, par exemple. Vous allez dire, bah ouais, mais moi, je regarde des formations, j'ai payé 29 euros. Oui, OK, mais c'est, généralement, ça peut être du logiciel ou c'est quelque chose qui est très généraliste. D'accord? Hein, pyramide de Maslow, le management, on fait. Dès que vous allez créer pour quelqu'un, sur du sur-mesure ou sur une formation spécifique, bah, déjà, vous vous rendez compte le temps de conception et de production? OK? Donc, il faut le vendre véritablement sur ce que ça coûte, déjà, plus votre marge.
Ouais, d'accord.
D'accord. Donc, il faut vraiment se dire des formations, même des fois, c'est 4 heures. Ça va valoir de l'argent en e-learning. Mais ça dépend à qui vous le vendez.
Oui.
Si vous le vendez en B2C, donc directement aux stagiaires, ou si vous allez le vendre en B2B à une entreprise qui, elle, va rediffuser. Alors là, attention, hein, attention à ce que l'on fait. On ne donne pas nos contenus comme ça. On peut, mais ça a un coût. Donc ça, il faut le valoriser. En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça vaut? C'est quoi la valeur de ce que vous avez fait? Si vous avez créé des contenus pour une structure, d'accord, qui vous a demandé du e-learning spécifiquement, en disant, bah oui, mais ça, je voudrais que vous le fassiez en e-learning aussi. Ah bah oui, mais je vais le faire pour vous. Il faut effectivement que je m'y retrouve. Donc au minimum le temps que vous avez passé, d'accord. Et ensuite, si vous donnez un lien ou si vous donnez vos fichiers et que cette entreprise va les réutiliser, ah ben bah, non, ça peut valoir très très cher. Ça peut valoir 50, 30, 40, 50 000 euros. Bien sûr, pour 4 heures. Hein? Ah oui. Si je crée une formation sur mesure. pour que là j'ai le cas, on vient de le faire pour une personne qui est organisme de formation, mais elle est toute seule et on lui demande effectivement, on lui a demandé un e-learning. C'est un peu un principe encore de classe inversée, en blended, hein, c'est avant une formation d'une journée, mais à diffuser à 1000 salariés.
Ah oui.
Bon, donc là, on est dans une démarche commerciale, d'accord ? Vous avez un produit, un service, vous allez le vendre. Donc là, elle va vendre des accès. Hein. On peut vendre des accès aussi. Bah, pour 1000 personnes, c'est, 30 euros. Donc, c'est 30 000 euros.
Bah oui, moins un coût par apprenant.
Voilà. Voilà, un coût par apprenant aussi. On peut avoir ça. Et puis ensuite, là, directement, vous pouvez vendre ce que vous avez fait, vos fichiers sources. Une utilisation. Mmh. Alors, une durée de vie d'un e-learning, c'est... ça dépend des contenus que vous avez mis dedans. Donc, il faut toujours faire attention à ce que l'on met, etc. À des choses qui peuvent être faciles à changer. Hein. On va pas mettre en voix off ou en vidéo une réglementation ou quelque chose. Ça peut être compliqué. C'est une durée de vie 3-4 ans, on va dire. Parce que 3-4 ans au-dessus, les technologies changent. Mmh. Il y a 3-4 ans, on n'utilisait pas Geniali il y a 4 ans.
Ben non, oui, après, il faut mettre à jour, oui.
Voilà, il y avait Flash, peut-être encore, ou il y avait d'autres choses. Regardez nos téléphones, de ce que l'on regardait il y a 3-4 ans sur les réseaux et ce qu'on a maintenant à la qualité. Mm-hmm. Et encore une fois, ça ne s'improvise pas, comme rien ne s'improvise sur les réseaux, quoi. Donc, c'est 3-4 ans. Donc, il faut rentabiliser ce que vous avez fait et arrêter d'avoir peur de vendre ce que vous faites. Au minima, c'est le même coût que le présentiel.
Ah oui. C'est une D'accord. bonne métrique à avoir en tête, ça.
Voilà.
Oui.
Il ne faut pas dévaloriser votre e-learning. Oui, mais mon e-learning, il dure que 2 heures. OK. Mais on revient à la base. Ça aurait été du présentiel. Ça aurait fait combien? Une journée?
Donc, tu factures une journée.
La journée. Voilà.
Voilà. Oui, oui.
Alors, la question, c'est à combien on facture une journée?
Parce qu'après, oui, ça, voilà. Et là, différent. C'est pareil. Il ne faut pas se dévaloriser.
Il ne faut pas se dévaloriser. On sait qu'il y a des choses qui sont très accessibles qu'on achète moins cher. Et comme la bureautique, les langues, etc. Hein, parce qu'il y a pléthore et on trouve pléthore. Et puis, il y a des choses qu'on va acheter plus chères, très chères des fois, parce que l'expertise n'existe pas ou j'ai du mal à la trouver. Actuellement, on accompagne, par exemple, des organismes de formation qui créent sur la cybersécurité. Des formations e-learning. Diffusion large, attention, hein, durée de vie très courte. Mais difficulté à trouver des formateurs, hein, c'est ça aussi. Des fois, je fais du digital. Pourquoi? Je reviens sur notre première question. Ben, parce que j'ai plus de formateurs ou j'ai plus la compétence, je la trouve plus. Hein, mais quel que soit le métier, on parle aussi d'artisanat, on parle de voilà, c'est vraiment ça. Donc et aussi, des fois, je crée parce que j'ai besoin que les collaborateurs soient formés en permanence. Là, je reviens de voyage, mais c'est le cas dans la sécurité, la sûreté, c'est le cas dans les hôtels aussi, hein, c'est le cas dans la restauration, c'est le cas. Voilà. Donc, et ils n'ont pas le temps le reste du temps. Hein. Là, on a créé un petit exemple quand même pour illustrer le propos, parce que des fois, on peut se dire, oui, mais je vais vous donner un exemple réel, encore une fois. On accompagnait un organisme de formation en Occitanie sur la création d'une formation spécifique pour les infirmiers et infirmières, d'accord, qui existait qu'en présentiel. Formation longue, hein, d'accord. Formation longue, c'était 150 heures, quelque chose comme ça. Hein. Donc, c'est compliqué pour les infirmiers et les infirmières d'avoir une journée, de pouvoir prendre du temps. Toutefois, bah, on aime bien aussi se retrouver dans nos métiers pour pouvoir échanger, hein, parce qu'on n'a pas l'occasion de prendre du temps pour ça. Donc, l'organisme de formation et le dirigeant, avec qui toute petite équipe avec qui on parle, me dit « Non, Laetitia, je veux la digitaliser, cette formation. » mais ça va être très compliqué parce que les infirmiers et infirmières, ils sont sursollicités en e-learning. Donc, on a mis du storytelling, on a raconté l'histoire de Sylvie, infirmière, à qui il allait arriver, ça. Il faisait deux sessions par an, d'accord? Donc, ça faisait 16 personnes par an, ok? Au départ, il me dit, non, le e-learning, faut quand même pas, il fait 20 heures, enfin, même plus que ça, je crois qu'il fait 35 heures, je sais plus. Bref, il fait 35 heures, on va prendre l'exemple. Non, je vais le mettre beaucoup moins cher que le présentiel. Je dis non, tu le mets au même prix. Non, quand même. Il l'a fait sur la première année. Je lui dis, bon, ce que tu vas faire, c'est que tu le mets au même prix, mais tu fais une remise. Lancement, oui, parce que oui. Voilà, il va. OK. Hein, c'est comme ça qu'on ne se dévalorise pas aussi sur les prix. Et là, c'est la deuxième année, même pas, hein, ça fait 9 mois que la formation est sortie. Elle est au même prix que le présentiel. Et il a plus de 60 inscrits. Ah, donc, oui. C'est aussi ça, c'est que le e-learning permet d'adresser des gens sur un territoire qui des fois ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas parce que le territoire est trop grand, venir en formation sur tel site, mais aussi tout simplement parce que j'ai pas le temps. Moi, à 16h, je dois aller chercher les enfants, les machins. J'ai pas le temps. Je veux pouvoir me former quand je veux le soir, etc. Donc voilà, donc 60, bah, il est largement rentabilisé son e-learning. Largement.
Bah oui. Largement. Non, c'est un bon exemple. Et quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu rencontres dans la conception des formations digitales?
C'est justement d'arriver sur l'outil.
De choisir l'outil?
Non, c'est de commencer par l'outil.
Ah oui, de commencer par l'outil, ce que tu disais.
Oui. Et alors là, on arrive dans tous les biais qu'on a. On va privilégier un visuel par rapport à d'autres. On va oublier l'audio, on va oublier le sous-titrage, on va oublier toutes les formations maintenant e-learning doivent comporter de l'audio.
Oui.
Et je vais même vous dire, toutes doivent être sous-titrées.
Oui, c'était aussi pour l'accessibilité, oui.
Oui, qu'on peut enlever ou pas, hein, parce que des fois, oui. On va se dire, ça fait beaucoup, voilà. Mais c'est un choix. Donc, c'est ça, en fait. C'est que les gens vont direct sur ça, sur l'outil. Et du coup, disent, ça fonctionne pas trop parce que, c'est exactement, et ça, là, je pense qu'on l'a tous vécu, c'est passé pendant la crise sanitaire du présentiel en visio, hein, et de se dire, ça marche pas. Hein, si je fais la même chose, ça marche pas. Là, c'est pareil, ça marche pas. Donc, ça marche pas. Donc, et encore une fois, vous êtes pas là pour leur dire, faut cliquer ici ou ça. Donc, ça marche pas. Le deuxième. Donc ça, c'est la première des choses. Donc on revient, on fait sa conception pédagogique, on identifie son persona, ses compétences. Et le deuxième, c'est de pas avoir de technique en graphisme ou en colorimétrie, etc. Donc là, on a des choses qui partent dans tous les sens. On a ce qu'on appelle des distracteurs pédagogiques de tous les côtés. Le son est pas bon, le visuel, j'ai du rouge, du jaune, enfin j'exagère, hein, mais un peu les voilà limite PowerPoint des années 2000, ça part dans tous les sens, voilà. Donc ça c'est la deuxième erreur, c'est moche. Donc moche, j'ai pas envie. Donc oui. Ça y est, voilà. Voilà. Et puis la troisième que je vois aussi, c'est que des fois l'histoire, quand les gens font du storytelling, l'histoire prend le pas sur les apports. Donc on a une super histoire. Mais ou un super jeu, alors ça je le vois souvent, hein. Un super jeu et puis on sait pas ce qu'il faut retenir. Le jeu était sympa, mais on n'est pas là pour jouer, on est là pour apprendre.
Oui, hein. Oui. Que ce soit un jeu pédagogique, un jeu à visée pédagogique.
Exactement. Et ça arrive souvent. Je vois des choses où je dis ok, très sympa, très très sympa. À quoi ça sert? Qu'est-ce que je retiens? Ouais, j'ai passé un bon moment. Ok, je regarde un film, je passe un bon moment aussi. Hein, et puis je vais en tirer d'autres choses. Donc voilà, ça, on va dire que c'est les trois erreurs. La quatrième, vous la connaissez, tout le monde la connaît, c'est j'ai pas le temps. On ne me donne pas les moyens, en fait. Ça veut dire ça, hein, parce que le temps est une question de priorité, bien entendu, mais ça se crée pas sur un coin de table.
Non, il faut prendre le temps de se poser, de créer, etc. Oui.
Et il faut savoir s'arrêter. Oui. Il faut savoir s'arrêter parce que on peut ne jamais en finir. Je vais rajouter ça. Donc, et ça, on le voit dans l'accompagnement. On a une formation qui était prévue d'une journée en présentiel, tu vois, et on allait en faire 2 heures de e-learning. Ah bah oui, mais du coup, on peut mettre ça. Ah ouais, mais enfin, c'est plus du tout le même projet. Hein.
Non, bah non. Donc,
il faut savoir s'arrêter. Commencer étape après étape. D'accord? Dites-vous bien, je vais pas digitaliser toute une formation. D'accord, je vais commencer par digitaliser, je vais créer la synthèse. Ah. Et je vais leur envoyer plus tard. D'accord. Ça, c'est top hein, sur l'ancrage mémoriel. Vous faites votre formation présentielle et au lieu d'envoyer un support, hein, tout le monde veut le support, personne ne regarde le support, qu'on soit clair. Personne. Qui ouvre ses supports après la formation? Sans évaluation, personne. Ça nous rassure. Mais là, l'idée de se dire, j'envoie une synthèse animée avec une voix off, hein, et pourquoi pas un podcast, hein, je peux on génialise juste un podcast. Vous voyez, vraiment une voix off qui dit « J'étais ravie de vous voir, voilà ce qu'il faut retenir avec 3 bullet points, ça suffit, ça marche. » Commencez, mais simple.
Ah bah merci pour tous ces conseils. Merci Laetitia. Donc là, on va arriver à la fin de notre épisode. Pour conclure, je vais avoir une dernière question, mais bon, là, tu as un petit peu répondu. Quelles sont pour toi les compétences justement nécessaires pour créer une formation digitale efficace?
Très bonne question et c'est bien de conclure là-dessus aussi. Sachez qu'on peut pas tout faire, on peut pas être bon tout le temps. Hein, il faut être bon au bon moment, ça c'est déjà la première des choses. Il faut savoir confier à d'autres la production ou autre. Ça c'est déjà ça. Donc il faut choisir aussi qu'est-ce que vous voulez faire vous, en fait. C'est pas les mêmes métiers. Mmh. Ingénieur en formation, ingé pédago, on va les mettre ensemble, d'accord ? Là, on va dire que c'est le même métier, parce qu'il n'y a qu'en France, on se prend la tête là-dessus. Donc, OK. Concepteur, c'est un métier. Intégrateur dans un logiciel, c'est un métier, très clairement. Parce que c'est pas la même chose, c'est vraiment pas les mêmes métiers. Moi, je suis incapable d'intégrer dans Storyline ou quoi que ce soit. C'est pas du tout mon métier. Et en tant que formateur, on va vous dire, il faut savoir tout faire. Non, en fait. Il faut vous dire qu'est-ce que moi je vais faire, c'est quoi ma valeur ajoutée là-dessus. Est-ce que je suis formateur animateur, formateur concepteur jusqu'où? Mais vous n'êtes pas forcément créateur de e-learning, c'est vraiment un métier à part. Donc, voilà, vous pouvez vous former, il existe plein de formations. Bien entendu, des formations qui sont assez axées outils. Mais encore une fois, je vous conseille, si vous êtes comme nous, hein, c'est-à-dire que 90% des formateurs sont des experts métiers à la base, qui n'ont pas eu de formation de formateur, commencez par la base, commencez par vous former à l'ingénierie. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple de créer derrière. Donc, c'est déjà ça. Il existe, bien sûr, tous les podcasts déjà pour avoir une première idée, une sensibilisation. Et après, il faut aller plus loin sur la compétence. Privilégier, si vous le souhaitez, des formats courts, mais à un moment, il faut vraiment avoir et de la théorie et de la pratique, mais pas sur l'outil. L'outil, c'est à la fin. Et j'ai l'habitude de dire que concevoir une formation, c'est comme créer une maison, fabriquer une maison. L'ingénieur, c'est l'archi. Le concepteur, c'est le maître d'œuvre, il va choisir les ouvriers, etc. Mais un plaquiste, c'est pas un menuisier, d'accord ? C'est pas les mêmes métiers. Pour nous, c'est la même chose. L'outil dans la maison, c'est la déco et la peinture. Donc, oui, c'est hyper important. Parce que sinon, une maison, ça peut être tout moche, et puis voilà. Mais si vous avez fait une super déco, et qu'on rentre, et qu'il y a des trous dans le plancher, et que les fenêtres ferment pas, ça marchera pas. Donc, chacun son rôle. Donc, réfléchissez à ça. Toutefois, encore une fois, on peut commencer très simple, et que ce soit hyper percutant. Parce que c'est ce qu'on cherche, à être percutant pour nos stagiaires. Donc, c'est ça. Donc, faites pas des choses trop énormes, mais des choses, justement, qui vont avoir un impact pédagogique.
Eh bien, merci beaucoup Laetitia pour tous
merci
ces conseils.
Merci. Donc, encore une fois, ravie.
Dans les notes de l'épisode, donc je mettrai ton contact LinkedIn si nos auditeurs souhaitent se connecter avec toi. Je mettrai également le lien de ton site, le lien de ton podcast, parce que tu en es déjà à combien d'épisodes, dis-moi.
Huitième, le dernier est sorti très, très, très récemment. Oui.
Oui, tu en seras peut-être à une dizaine quand on va diffuser cet épisode.
C'est possible.
Voilà. Et j'indiquerai également le titre de ton livre et le lien. Merci encore, Laetitia.
Merci, à très bientôt. Merci. Et n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcasts ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuigné. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.